Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Dans notre dernière étude, nous avons établi le fait qu'il existe un vrai diable qui est personnel, puis nous avons décrit qui il est. Nous avons dit que la raison, la révélation et l'expérience, tout corrobore pour justifier l'existence de cet être. La Bible nous dit très clairement qu'il est un ange déchu, mais non seulement car il est peut-être l'ange suprême dans la création de Dieu, le chérubin le plus haut des chérubins, le plus élevé de l'armée angélique. C'est un être spirituel. Bien qu'il soit un esprit, il n'est pas omniprésent, mais il se déplace rapidement, et son travail est effectué non seulement par lui-même, mais par une armée d'anges qui sont tombés avec lui dans la rébellion. Donc nous avons répondu à la première question, « Est-il ?» en disant « Oui ». Et nous avons répondu à la deuxième question, « Qui est-il ?» en disant qu'il est un être spirituel, un ange déchu, qui est intensément puissant et qui gouverne une foule de démons comme lui, des anges déchus, qui s'opposent au dessein de Dieu. Et nous avons dit que le champ de bataille est devant le trône de Dieu, comme illustré dans le livre de Job, dans les cieux, comme illustré dans le livre de Daniel, et sur la terre, comme l'illustre à maintes reprises la Bible. Nous sommes conscients du conflit qui se produit. Maintenant, ce soir, nous voulons examiner la troisième de nos questions. Existe-t-il ? Qui est-il ? Enfin, à quoi ressemble-t-il ? Nous voulons définir un peu plus en détail, plus clairement, le caractère de Satan. Et la raison pour laquelle nous voulons faire cela est parce que notre compréhension claire de ce qui se passe dans le monde dépend, dans un certain sens, de notre compréhension de ce que l'adversaire est en train de faire. Et quand Paul a écrit aux Corinthiens, il a dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance de ces dispositifs. Mieux nous anticipons son activité, mieux nous serons à même de construire une défense contre lui. Il est donc important de savoir qui il est. Tout d'abord, à quoi ressemble-t-il ? Ayez votre Bible à portée de main, car nous allons examiner plusieurs écritures ce soir. Permettez-moi de dire ceci. Il y a des choses que nous devons dire à son sujet pour vous montrer ce qu'il n'est pas. Et s'il vous plaît, notez que Satan ne ressemble pas à Dieu. Il ne ressemble pas à Dieu. Par là, je veux dire plusieurs choses, et vous les comprendrez en référence à ce que nous avons dit à propos de Dieu durant nos heures du matin. Premièrement, Satan n'est pas auto-existant. Il a été créé. C'est une créature. Et cela le met suprêmement inférieur à Dieu. Deuxièmement, il n'est pas souverain. Satan gouverne un domaine de démons, mais il ne se prononce pas au-delà des limites de ce confinement de la domination que Dieu lui a donné. En fait, Satan n'a jamais rabattu le gouvernement de Dieu. Vous réalisez que la rébellion a totalement échoué, et si vous voulez regarder Satan correctement, vous le regarderez en exil. Il a été exilé de la terre et de domaines autour d'elle. Il n'a jamais fait rabattre le gouvernement de Dieu. Il est seulement en rébellion contre lui. Il est enchaîné, se débattant contre les chaînes, et ces chaînes s'étendent tellement loin. Et Dieu lui permet d'aller assez loin, mais pas plus loin. Il fonctionne entièrement dans la sphère de Dieu. L'apôtre Paul nous donne une indication que même Dieu utilise Satan à ses propres fins. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7, Paul dit que ce qui lui a été donné pour lutter contre lui, pour lui faire prendre conscience de sa propre faiblesse, cette épine dans la chair, c'était le messager de Satan pour frapper. Et pourtant, il a prié Dieu de le lui retirer, et Dieu a choisi de ne pas le faire. Dieu, en fait, permettait à Satan de faire quelque chose qui tournera à l'honneur de Dieu. Satan opère dans la rébellion, mais même sa rébellion échoue, car Dieu l'utilise à ses propres fins. Satan, alors, n'est pas comme Dieu. Il n'est pas auto-existant, et il n'est pas souverain. Troisièmement, il n'est pas tout-puissant. Il n'est certainement pas omnipotent. Il n'est pas tout-puissant. Puissant, oui, mais pas tout-puissant. 1 Jean 4, verset 4 dit, « Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qui est-ce qui est en vous ? C'est Dieu, sous la forme de son esprit. Satan est de loin inférieur à lui. Ensuite, Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il y a des chrétiens, je suppose, qui, pendant des années, ont discuté sur l'idée de savoir si Satan peut lire vos pensées. Pour autant que je puisse comprendre la Bible, il n'y a aucune déclaration de cela. Et la raison pour laquelle je crois que Satan ne sait pas tout est parce que Satan est un ange, et les anges ne savent pas tout. Cela est illustré dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 11 et 12. Et nous avons vu ce matin que les anges désirent plonger leur regard dans l'époque du salut. Il y a certaines choses que les anges ne comprennent pas. Nous avons un peu parlé ce matin de choses comme la miséricorde, la grâce et le pardon, qui sont incompréhensibles pour un ange. Il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Et si les saints anges ne comprennent pas tout, il n'y a aucune raison de croire qu'un ange qui est corrompu le saurait. Il n'y a aucune indication dans l'Écriture que Satan puisse lire nos pensées. Maintenant, il est assez bon pour prédire notre comportement, parce qu'il a eu beaucoup de temps pour étudier la nature humaine. Et il peut dire par des attitudes et des actions à peu près ce qui se passe à l'intérieur. Mais il n'est pas omniscient. Une bonne illustration du fait que Satan ne sait pas tout est la confusion dans son propre royaume. Avez-vous déjà remarqué à quel point Satan continue à tourner sur lui-même? Il fait des choses vraiment stupides. Par exemple, si Satan savait tout, il n'aurait jamais mis Christ sur la croix. Au début du ministère de Jésus-Christ, il semble qu'il a essayé de l'empêcher de se rendre à la croix. Il voulait tout lui donner. Rappelez-vous sa tentation. Plus tard, grâce à l'incident avec Pierre, il a essayé de dire « Christ, ne le fais pas de cette façon ». Mais quand il a su qu'il ne pouvait pas arrêter le Christ, il a forcé la chose. Eh bien, s'il savait tout, il aurait su que ce fut le coup fatal à sa propre tête. Il n'est pas omniscient. Lisez Actes 19 et voyez la terrible confusion qui se passe là-bas. La confusion entre les personnes démoniaques qui prophétisaient et prédisaient et les gens qui essayaient de chasser les démons, mais qui étaient aussi démoniaques. Satan est très confus. Si vous avez déjà étudié la Bible très attentivement et étudié le caractère de Satan, vous savez qu'il est terriblement incohérent. C'est parce que la corruption affecte également l'intellect. Les anges sont intelligents, mais ceux qui sont tombés ont corrompu leur intelligence. Ils ne fonctionnent pas très bien. Non seulement Satan n'est pas omnipotent ni omniscient, mais il n'est pas omniprésent. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il est rapide, mais il n'est pas omniprésent. Aucun ange ne l'est. Daniel 9 et Daniel 10 l'indiquent clairement. Donc les anges ont des limites, et plus particulièrement ceux qui sont corrompus. Et Satan est une créature très limitée. Voilà ce qu'il n'est pas. Comment est-il alors? Maintenant, la meilleure façon de voir comment il est, c'est ce que nous allons voir ce soir. La meilleure façon de voir comment il est, c'est de voir les noms, les titres et les termes qui sont utilisés pour le décrire. Parce que ces descriptions nous donnent des informations sur comment il est. Tout d'abord, penchons-nous sur ces noms et titres. Les noms et les titres qui nous décrivent le caractère de Satan. Premièrement, il est appelé Satan. C'est un bon endroit pour commencer. Maintenant, je ne veux pas vous emmener dans toutes les Écritures où il est appelé Satan, parce qu'il est appelé Satan 52 fois. Cela prendrait un peu trop de temps. Par exemple, dans Zacharie 3, verset 1, dans Apocalypse 12, verset 9, et d'autres endroits. Le mot vient d'un mot hébreu, qui signifie « adversaire » ou « opposant ». Nous apprenons alors, à partir du nom de Satan, qu'il est un adversaire. Et c'est l'adversaire de qui principalement? Celui de Dieu. Et en second lieu, il est l'adversaire des saints anges de Dieu, comme en témoigne Apocalypse 12, où il se bat contre Michaël et les anges célestes, les saints anges. Il est aussi l'adversaire du peuple de Dieu, de ces êtres humains qui sont identifiés avec le Seigneur Jésus-Christ. Satan est un adversaire. C'est son nom qui définit son caractère. Deuxièmement, il est non seulement appelé Satan dans la Bible, mais il est appelé le diable. Et ce terme est utilisé 35 fois. Diabolos. Cela signifie celui qui diffame ou celui qui fait trébucher. Et si nous devions combiner ces deux noms, cela indique qu'il veut blesser les personnes par calomnie malveillante. Il diffame Dieu, il diffame le Christ, il diffame le Saint-Esprit, il diffame l'Église, il diffame la Bible, il diffame la vraie doctrine, il diffame le caractère des chrétiens, il diffame sans cesse, il diffame tout ce qui se rapporte à Dieu. C'est son caractère. Il est non seulement un opposé, mais c'est un calomniateur. Et voilà pourquoi il est parfois très difficile pour un chrétien d'exister avec une bonne réputation dans le monde, parce que le monde est dans le giron du malin. 1 Jean 5, verset 19 le dit. Il est occupé à calomnier tout ce qu'il y a sur le christianisme. Troisièmement, il est appelé, et ceci, sans aucun ordre particulier. Il est appelé dans Apocalypse 12, au verset 9, le vieux serpent. Dans la Genèse, chapitre 3, nous le voyons comme un serpent. Dans 2 Corinthiens, un commentaire intéressant est fait dans le chapitre 11. Il est dit dans le verset 3. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. La caractéristique apparente reliée à l'idée d'un serpent est la ruse, la subtilité. Il est sournois, rusé, fourbe, trompeur. C'est le caractère de Satan. En fait, en écrivant aux Éphésiens et les autres qui ont lu cela, ce qui était une lettre circulaire, l'apôtre Paul dit que les enfants étaient jetés ça et là et emportés à tout vent de doctrine. Et il utilise le terme « prestidigitation » et la ruse de ceux qui sont dans l'attente pour nous tromper. Satan est considéré comme un rusé, un séducteur subtil. Quatrièmement, et ceci est un concept différent, il est appelé dans l'Apocalypse 12, versets 3, 7 et 9, et tout au long de ce passage, il est appelé par beaucoup de ses noms. Mais il est appelé le grand dragon dans ce passage en particulier. Au verset 3, il est dit « Un grand dragon rouge feu » Apocalypse 12, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Il continue d'en parler, et encore une fois dans le verset 7, il est appelé le dragon, et encore dans le verset 9, le grand dragon, le dragon rouge. Maintenant, qu'est-ce que cela indique? Eh bien, cela indique la puissance et la destructivité de cette bête. C'est une bête destructrice, terrifiante, qui détruit, et il est imaginé de cette façon dans Apocalypse 12. Parce qu'il est vu là-bas comme le général des armées de l'enfer. Il est vu là comme dirigeant l'armée de démons. Et il est vu dans son grand caractère impressionnant, redoutable, en tant que le grand dragon. Il est aussi appelé par un autre nom d'animal. Dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 8, il est appelé un lion rugissant. Maintenant, je ne connais pas beaucoup de choses sur les lions, mais j'ai fait un peu de lecture juste pour en savoir plus à leur sujet. Parce que je voulais savoir comment Satan travaille. Savez-vous quand les lions rugissent? Les lions rugissent quand ils ont leur proie, n'est-ce pas intéressant? Les lions ne rugissent pas quand ils chassent leur proie, sinon leur proie saurait qu'ils arrivent. Les lions sont sournois, aussi sournois que vous puissiez l'être quand vous faites 8 pieds de long et 180 kilos, je suppose, martelant à travers la forêt. Mais ils sont sournois. Et quand un lion atteint sa proie et est assuré de la victoire, il rugit avant de la dévorer. Au moment où vous l'entendez rugir, c'est trop tard. Et l'idée d'un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, est ce que désire Satan. Il veut capturer les hommes et les engloutir dans son péché, les engloutir dans son mal, laissant ces noms qui sont liés au monde animal pour considérer ceux qui sont un peu plus abstraits. Il est appelé dans Jean 17, verset 15, « Oponeros ». En grec, cela signifie le malin, le méchant. Et c'est une chose qui caractérise Satan. Dans 1 Jean 5, verset 18, il dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin, ce ponéros, ne le touche pas. Cela ne signifie pas le toucher, mais plutôt qu'il ne peut pas le tenir. Quand Dieu a l'emprise d'une vie, Satan ne peut pas tenir la même vie, mais il l'appelle dans ce passage le malin. Maintenant, ce mot ponéros se réfère, je crois, avec la meilleure compréhension, il se réfère à un mal interne intrinsèque. C'est le mal personnifié. C'est le mal au plus profond possible. Et comme tous les gens mauvais et tous les démons, ils ne sont jamais satisfaits de leur propre mal, mais ils désirent corrompre tout le monde. C'est comme Romains 1, où les gens se plaisent dans le mal. Non seulement leur propre mal, mais celui des autres. Ensuite, il est aussi appelé le tentateur. Et dans Matthieu, chapitre 4, quand il est dit que le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert, vous vous souvenez? Et après avoir jeûné pendant 40 jours, il avait faim. Et Satan vint à lui. Il est appelé le tentateur. Cela signifie qu'il incite les hommes au mal. Nous en verrons plus un peu plus tard dans notre discussion. Il est appelé par un autre nom ou un autre titre dans Apocalypse 12, verset 10. Il est appelé l'accusateur. Une chose que Satan aime faire est d'accuser les croyants. Il est occupé par cela. Mais notre Seigneur est notre avocat. Satan peut nous accuser. Notre Seigneur nous défendra. Satan peut dire, comme il l'a fait dans le cas de Job, « Job n'est pas bon du tout. Il suffit de faire ceci, de faire cela, et il va te renflouer et te maudire. C'est typique de la nature humaine. Ils vont tous te maudire si tu permets que le mal les attaque, Dieu. Satan est l'accusateur. Et je suis sûr que Satan est occupé à essayer de nous accuser devant Dieu pour que Dieu nous laisse tomber. Satan disait, « Eh bien, il n'est pas digne, il ne tient pas ses engagements. Il n'est pas digne de ta grâce, et de ton amour, et de ton salut. » Et puis nous lisons dans Romains 8, où il nous dit que personne ne peut accuser les élus de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a déjà rendus justes. C'est Dieu qui a déclaré que nous sommes justifiés. Alors nous n'avons rien à craindre. Alors Satan est non seulement appelé de tous ses noms, tentateur, accusateur, etc., mais il est appelé par un autre titre intéressant dans Éphésiens 2, verset 2. Certains disent que ce n'est pas un titre, mais simplement une chaîne de termes. D'autres disent que c'est un titre. Il est appelé l'esprit qui travaille dans les fils de la rébellion. Cela signifie qu'il est l'esprit qui travaille dans les non-croyants. Il gouverne le cœur des non-croyants. Maintenant, vous savez, en seulement quelques simples déclarations, des détails du caractère de Satan. Il est Satan, l'adversaire. Il est le diable, le calomniateur. Il est le vieux serpent, subtil, rusé, trompeur. Le grand dragon, une puissante bête destructrice, terrifiante qui détruit. C'est un lion rugissant, prêt à dévorer et engloutir tous ceux qu'il peut dans son système malin. D'ailleurs, il est appelé le malin, l'intrinsèquement mauvais. Il n'est lui-même pas content de son propre mal, voulant corrompre tout le monde. Il est le tentateur, séduisant les hommes pour les pousser à faire le mal. Il est l'accusateur essayant de faire tomber sur les hommes le jugement de Dieu en disant que nous sommes indignes de sa faveur et de son salut. Il est appelé l'esprit qui travaille dans les fils de la rébellion dans Éphésiens, chapitre 2 et verset 2. Tout homme qui vit dans le monde, en dehors de Dieu, est dominé par cet être. Maintenant, ce ne sont que des titres et des noms. Permettez-moi de vous emmener à un second concept, une autre façon dont nous pouvons comprendre Satan et de voir les termes qui sont utilisés pour le décrire. Ils ne sont pas très différents de ceux employés en tant que noms et titres, mais ce sont des adjectifs ou des noms plus descriptifs pour nous qui le définissons. Je vais vous en donner au moins trois pour commencer. Et nous verrons jusqu'où nous pourrons aller. Premièrement, Satan est appelé un meurtrier. Jean 8, verset 44. Notre Seigneur, en dialogue avec les pharisiens qui prétendaient être les enfants de Dieu, leur a dit qu'ils étaient tout sauf des enfants de Dieu. Dans le verset 44 de Jean 8, Jésus dit « Vous, vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et le père du mensonge. C'est non seulement un menteur, mais c'est un meurtrier. Le crime qui a été commis, qui se démarque dans nos esprits après la chute, était le crime de l'assassinat d'Abel par Caïn. Satan a commencé sa carrière comme un meurtrier. Dans 1 Jean chapitre 3 et verset 12, il dit « Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Pourquoi l'a-t-il assassiné? Parce qu'il était de Satan. Et Satan est un meurtrier. Assassiné satanique. Satan incite à assassiner. Il est occupé à faire cela. En fait, il a tenté d'abattre Israël à plusieurs reprises. Il a essayé de les détruire plusieurs fois. Nous constatons que dans l'Apocalypse, chapitre 12, l'une des choses que Satan a essayé de faire est non seulement d'anéantir la nation d'Israël, mais d'exterminer l'enfant qui naîtrait en Israël, le Messie. Maintenant, réfléchissons pour nous souvenir des nombreuses fois quand Satan a tenté de détruire le Messie. Permettez-moi de vous ramener dans l'Ancien Testament et vous donner un exemple. Regardons Deux Rois au chapitre 11 pour un instant. Il y avait une femme très diabolique ici du nom de Athalie. Achazias était mort, et sa mère, cette Athalie, a vraiment repris. Athalie, mère d'Achazias, vit que son fils était mort. Elle fit disparaître toute la descendance royale. Maintenant, l'émissaire de Satan allait effacer la ligne messianique, effacer la semence de ceux qui avaient le droit de régner, et donc la semence pour la venue du Messie. Mais je veux que vous sachiez que c'est un grand mot. À ce stade de l'histoire, la lignée de David est descendue à une seule personne. Si quelque chose était arrivé à cette personne, toute espérance messianique aurait disparu. Mais Yehosheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazias, prit Joas, fils d'Achazias, et l'enleva d'entre les fils du roi qu'on mettait à mort. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. On le mit à l'abri d'Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Maintenant, je ne sais pas comment elle a fait cela, mais cela a dû être intéressant. Il resta 6 ans caché avec elle dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays, et Dieu a protégé le petit bébé, qui était le fils de l'espérance messianique. Enfin, ce Messie est venu. Et vous arrivez dans Matthieu, chapitre 2. Et Satan s'est rendu compte que cet enfant est né, et il projette de l'assassiner à nouveau. Et quand ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve disant « Lève-toi, et prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte. » Matthieu 2, verset 13. « Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Encore une fois, Satan, par le biais d'Hérode, a essayé de détruire le Messie. Dieu l'a protégé. Satan est un meurtrier. Il a toujours été un assassin. Il sera toujours un meurtrier. En second lieu, dans la définition de son caractère, et nous allons passer un peu plus de temps sur cela, Satan est un menteur. Je viens de vous lire Jean 8, verset 44. Il dit, « Lui, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. Écoutez, vous ne devez jamais croire Satan. Il ment tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui disent, « Eh bien, vous savez, j'ai eu une expérience merveilleuse. J'ai eu des problèmes dans ma vie. » Et je suis allé voir une certaine personne, et elle a révélé divers démons, et les a chassés. Et ces démons, eh bien, tel ou tel démon a dit ceci, ou tel démon a dit cela. Et vous savez, je dis toujours à quelqu'un comme ça, vous savez quelque chose, juste une réflexion de base. Vous ne pouvez pas croire un seul mot de ce que cette personne a dit. Un homme m'a dit un jour, eh bien, je pensais que c'était cela mon problème. Mais j'ai assisté à une réunion, et quelqu'un a chassé un démon, et vous savez quoi? Il est apparu que ce n'était pas ce démon du tout. C'était un démon totalement différent. Eh bien, ne pensez-vous pas qu'un démon puisse vous raconter un mensonge s'il peut vous convaincre que vous n'avez pas de problème? C'est comme l'homme qui dit avoir été délivré du démon par des sécrétions post-nasales. Ils diront n'importe quoi si vous le croyez, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas les croire. Vous ne pouvez pas croire tout ce que vous entendez. Satan est un menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Il ne dit que des mensonges. Voilà pourquoi j'ai vraiment des questions sur ces ministères de délivrance. Ces gens n'ont pas pu faire face aux démons et Satan parce qu'ils ne peuvent même pas faire face à la vérité. Satan est un menteur et il est vraiment bon. Écoutez-moi. Dans Apocalypse 12 au verset 9, il est dit « Celui qui égare toute la terre habitée, il est fort dans ce domaine. Il trompe le monde entier. Satan est un menteur. Ne pensez pas que vous allez voir avec Satan une conversation qui va révéler la vérité. » C'est un menteur. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 1 « Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les secrets de la honte. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, il dit en fait « Une chose qui m'est arrivée immédiatement quand je suis sorti du pharisianisme et je suis entré dans le christianisme, j'ai cessé de dire des mensonges et j'ai commencé à dire la vérité. Toute fausse religion est construite sur des mensonges. » Il a dit, « J'ai arrêté les choses cachées de la malhonnêteté. J'ai cessé de marcher dans la roublardise. J'ai cessé de manipuler la parole de Dieu et j'ai commencé à manifester la vérité. Le christianisme est la vérité. Tout le reste est du mensonge. » Dans 1 Jean, et nous venons de terminer cette étude, ce sera donc frais dans votre esprit. 1 Jean 2, verset 21. « Je vous ai écrit, non pas parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Le voilà l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Ceci est caractéristique de Satan. Maintenant, au chapitre 4 et au verset 1. « Ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes, de mensonges sont sortis dans le monde. Satan est un menteur, et vous n'êtes pas en mesure de traiter avec lui. » Maintenant, permettez-moi d'ajouter quelque chose ici. Satan a des mensonges très efficaces. Et je sens vraiment cette chose que Satan fait aujourd'hui avec le souci de la sorcellerie et de l'occulte et de tous ces trucs, c'est qu'il dirige l'attention des gens loin de la vraie question. Mes amis, je sais qu'il y a beaucoup de choses vraies, fantastiques et passionnantes sur les planches Ouija. Et même ceux d'entre nous qui sont chrétiens et qui rejetons tout cela aiment bidouiller avec cela et lire des articles qui en parlent, parce que c'est un peu drôle, assez étrange. Et nous nous accrochons à pas mal de choses qui vont nous permettre d'apprendre un peu plus sur le monde à venir. Et ce que Satan, je suis sûr, voudrait faire serait de détourner tout le monde dans son activité manifeste et d'oublier son activité clandestine, ce qui est vraiment là où il travaille le plus. Et c'est le mensonge. Je pense qu'une déclaration intéressante écrite par Dave Breeze, que j'ai lu récemment et qui est à lire. Il dit « La sorcellerie est certainement dangereuse, mais elle trompe seulement le simple d'esprit. Jouer avec la planche Ouija ou la tenue des fétichismes peuvent produire une infection spirituelle terrible. Leur principal attrait, cependant, sera pour ces intellects limités qui recherchent l'émotion forte au lieu de réfléchir. Ces phénomènes externes peuvent être intéressants, voire spectaculaires, mais ils sont limités car ils n'attirent pas les gens raisonnables. Avec la sorcellerie, les orgies, les séances de spiritisme et la possession démoniaque, il a capturé des milliers, avec des fausses doctrines, des millions. » Fin de citation. Il a raison. Le vrai travail de Satan est la fausse doctrine. Si vous voulez savoir ce que je crois, c'est beaucoup plus sérieux et satanique en termes de son influence ultime d'avoir quelqu'un debout dans une chaire niant la parole de Dieu que d'assister à une séance de spiritisme. Le premier est évident. Le deuxième, subtil. L'activité la plus meurtrière de Satan, mes bien-aimés, est la perversion de la vérité. Voilà où il passe tout son temps. Et je suis sûr qu'il aimerait détourner beaucoup de chrétiens en leur faisant croire qu'il passe son temps à courir avec ses démons et à jouer au petit jeu avec des gens. Dans 1 Timothée 4, verset 1, l'Esprit dit expressément « Maintenant, regardez cela. Dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. » Là, vous avez les deux œuvres de Satan. Notez-les. Son travail manifeste, des esprits séducteurs, son travail clandestin, doctrine de démons. Il fonctionne de deux manières. Séduire ouvertement les esprits, le monde spirituel, le spiritisme, mais le plus important, les doctrines de démons, et il le définit. Raconter des mensonges dans l'hypocrisie. Maintenant, c'est pourquoi il nous est ordonné d'étudier la parole de Dieu, afin que nous puissions contrer les mensonges de Satan. Paul dit à Tite, attaché à la parole authentique et telle qu'elle a été enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Bien sûr, c'était pour un ancien, mais c'est certainement vrai pour nous tous. Et je pense aussi que chaque fois que les gens participent à certaines choses pour avoir de l'expérience, ils jouent directement dans les mains de Satan. La plupart des systèmes d'expérience sont chargés avec la fausse doctrine. Je vois beaucoup cela aujourd'hui dans ce qu'on appelle le mouvement charismatique. Chaque fois que vous avez une préoccupation avec l'expérience, vous avez toujours de la fausse doctrine, des idées fausses de Dieu, de mauvaises interprétations des Écritures, de fausses déclarations sur le travail du Saint-Esprit. Lorsque vous acceptez l'expérience comme le test de la vérité, vous vous mettez directement dans les mains de Satan. Satan travaille dans la fausse doctrine. Il brouille le monde avec la fausse doctrine. Et vous savez inévitablement que c'est enseigné par des gens intelligents, raisonnables et instruits. J'ai allumé mon téléviseur aujourd'hui pour regarder la religion aujourd'hui, ou quelque autre du genre, et on l'appelait la religion aujourd'hui. Et il y avait une personne en particulier là-bas, un prêtre catholique, qui parlait du disque jockey du pape qui voulait informer le monde par la station de radio du Vatican que Dieu était contemporain et donc il a diffusé du rock. Et il était prêtre. Et puis il y avait un pasteur protestant de l'église méthodiste de Los Angeles. Et il avait des graffitis en ce qui concerne les nouvelles. Et puis, il y avait un rabbin qui voulait parler d'autre chose. Vous savez, c'était trois hommes intelligents. Trois hommes très conservateurs, trois très beaux hommes, très typiques de la tromperie de Satan. Vous savez, laissez-moi vous donner un exemple. Je pensais, quand je grandissais, que le plus grand séducteur que Satan avait dans le monde, et c'était tout simplement ma propre pensée comme celle d'un enfant, que le plus grand séducteur que Satan avait dans le monde entier était un homme du nom de Mahatma Gandhi. Je savais pourquoi. Parce que c'était un bon gars. Tout le monde aimait Gandhi. Il ne faisait pas grand-chose, mais s'asseyait là. Il était, que pouvait-il faire? Le meilleur pacificateur de tous les temps. La tragédie de toutes les tragédies est qu'il était l'homme de Satan, arrosant une civilisation entière par des mensonges. Vous savez, si vous pensez que l'homme de Satan est un clochard ivre, vous avez tort. L'homme de Satan est un homme religieux, raisonnable et logique. Voilà l'homme de Satan. Si vous pensez que l'homme de Satan est un sorcier, c'est faux. Cela peut concerner quelques hommes en marge. L'homme de Satan est un homme qui ressemble à tous les autres chrétiens, qui utilise des termes chrétiens, mais qui parle du message du diable. Satan est doué pour le mensonge. Je veux que vous compreniez cela. Je vais vous raconter quelques-uns des meilleurs mensonges qu'il a pour que, quand vous les entendez, vous pouvez les reconnaître. J'ai apporté son sac de pièges ce soir et je vais le déverser. Premièrement, voici l'un de ses super mensonges. Allez à Genèse 3, verset 1. Je vais en regarder un ou deux ici, puis dans Job, et ensuite dans Matthieu. Le premier mensonge que je vois ici est que Dieu est un rabat-joie cosmique. Voilà son premier mensonge. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»« Pourquoi, Ève, veux-tu dire que Dieu t'a mis ici et t'a dit que tu ne pouvais pas tout manger ?» Quel genre de Dieu est-ce? Pourquoi ferait-il cela? Tu sais qui est Dieu? C'est un tyran qui se plaît à mettre les gens dans des situations frustrantes. Il aime te faire tenir là et dire « Maintenant, ne touche pas à ça !» Vous voyez? Il aime frustrer. Dieu aime établir une loi mosaïque que personne ne peut garder, puis frustrer tout le monde, les rendant fous. C'est une sorte de rabat-joie. Vous ne pouvez pas vivre avec ce genre de choses. Jetez-le et faites ce que vous voulez. Avez-vous déjà entendu celui-là? Peut-être il faisait du bruit dans votre ordinateur. Il était une fois. Permettez-moi de vous raconter un autre mensonge de Satan. Vous savez quoi? Dieu est un menteur. C'est vrai. La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Dieu a-t-il dit cela? Non, Dieu n'a pas dit cela. Mais Ève le rendait encore pire. Ève pensait, « Eh bien, Dieu est probablement un rabat-joie. Je veux dire, qu'il ne veut même pas nous laisser toucher l'arbre. Il n'a pas dit cela. Vous ne seriez pas très intelligent si vous le touchiez sans le manger. Vous joueriez juste avec la tentation, de peur de mourir. » Et le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » C'est traduit pour insinuer que Dieu est quoi? Un menteur. La Bible dit, soyez sûr que votre péché vous trouvera. » Satan dit, « Non, personne ne saura. Allez-y et faites-le. » La Bible dit, « Si vous péchez, Dieu vous châtiera. » Satan dit, « Vivez, vous êtes sous la grâce. » Satan appelle toujours Dieu un menteur. Voilà pourquoi la seule protection que vous avez contre les ruses du diable est le bouclier de la foi. Soit vous croyez Dieu, soit vous croyez Satan. Dès que vous croyez Satan, le bouclier se baisse, c'est terminé. Tant que vous croyez Dieu, et croyez qu'il dit la vérité, vous savez que vous faites bien. Satan dit que Dieu est un menteur. Maintenant, allez à Job, au chapitre 1, et je vais vous montrer d'autres mensonges de Satan, juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre de l'être corrompu qu'il est. Job, chapitre 1. Il doit se lasser d'entendre les prédicateurs partout en Amérique dire ce genre de choses à propos de lui tout le temps. Je sais qu'il va entendre, ou quelqu'un lui fera un rapport de ce que nous disons. Job 1, verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Les fils de Dieu font référence apparemment aux anges. Satan, l'adversaire, est venu parmi eux. Et le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Voilà ce qu'il dit. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Ne pas courir la terre pour m'y promener, je vérifie tout le monde. » L'idée ici montre qu'il est pressé. Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Avez-vous vérifié quand vous faisiez rapidement le tour? Il est quelque chose, n'est-ce pas? L'adversaire répondit au Seigneur. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Vous savez ce qu'il voulait dire par là? Les croyants sont matérialistes. C'est un autre mensonge de Satan. La seule raison pour laquelle Job est fidèle est parce que tu lui donnes des récompenses. Il est un peu comme les chiens de Pavlov. Il sait que tu es là et que tu vas laisser tomber une petite récompense. Et donc, il fait ce qu'il faut pour l'obtenir. Les croyants sont matérialistes. Tu penses que Job te sert par amour? Ah! Est-ce qu'il te sert pour rien? Il te sert pour quelque chose. Il prend ce qu'il peut de toi. Vous savez, c'est un mensonge. Et je suis sûr que la plupart des gens dans le monde qui ne connaissent pas le Christ croient cela à propos de nous. Nous croyons en Dieu parce que nous obtenons une sorte de satisfaction, ou cela remplit un besoin psychologique. Ou nous sommes dévoués à Dieu parce que Dieu fait certaines choses pour nous, et nous sommes matérialistes. C'est l'un des mensonges très populaires. Il enchaîne avec un autre de ces mensonges au verset 10. « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau s'accroît dans le pays. Regarde Dieu, Satan a dit. Vous dites qu'il est un homme bon. Eh bien, je suppose, mais regardez-le. Il est si riche qu'il est ridicule. Vous mettez des haies autour de lui. Rien ne peut toucher cet homme. Qui ne serait pas un homme responsable alors? Regardez ce que vous avez fait pour lui. » Le verset 11. « Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Quel est son mensonge? Les problèmes dans la vie d'un croyant apporteront la défection. Ah, bien sûr, il se porte bien. Regardez toutes les récompenses qu'il a. S'il était dans mes chaussures, il ne serait pas tellement excité au sujet de Dieu. Ce qu'il dit est que Dieu le traite avec condescendance. Que Dieu garde ses disciples car il a un sac de bonbons. Il n'aime pas vraiment Dieu. Satan raconte beaucoup de mensonges. Encore un autre mensonge, verset 1 du chapitre 2. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu? Où étais-tu? » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Et vous savez, c'est plus tard, Dieu avait déjà tout emporté. Et Job vient de dire, « Peu importe, Seigneur. » Il a dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc Job a tout compris. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha pas, et n'attribua pas son malheur à Dieu. Et Satan dit, « Je dois aller de nouveau voir cet homme-là. » Dieu dit, « Avez-vous vu Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme droit, parfait, celui qui craint Dieu, se détourne du mal et encore tient ferme dans son intégrité. Comment pourrait-il faire cela? Tu t'es déplacé contre lui, tu l'as détruit. » L'adversaire répondit au Seigneur, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends sa main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est dans ta main. Seulement épargne sa vie. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. N'est-ce pas beau? Le mensonge de Satan est que les chrétiens sont matérialistes. Les épreuves apporteront la défection. Seule cette vie compte. Vous commencez à les frapper physiquement, et ils vont se détourner de Dieu. Vous savez, le contraire est vrai. Très souvent, quand un chrétien entre dans un stress physique terrible, c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers Dieu. Satan est un menteur. Je vais vous donner un autre de ces mensonges. Matthieu, chapitre 4. Beaucoup de gens croient ce mensonge-là. J'ai lu ce livre. Il s'appelle « Comme un vent puissant » par Mel Tari. Et c'est à propos d'un réveil indonésien. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il donnait le témoignage que j'ai pu entendre et qu'il a dit qu'une fois qu'ils aient eu cette merveilleuse réunion après un culte, ils avaient besoin de rafraîchissement. La personne qui était censée l'amener l'avait oublié. et Dieu a créé instantanément dans la cuisine du pudding pour tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Dieu a créé le pudding instantanément, vraiment. Je ne sais pas si cela entre dans votre théologie, mais cela n'entre pas dans la mienne. C'est typique d'une mentalité qui dit, et c'est un des mensonges de Satan, Dieu fait des miracles pour satisfaire le physique. Écoutez Matthieu, chapitre 4, verset 3. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu as faim et tu es le fils de Dieu. Il a nourri Israël dans le désert, et ils n'étaient que des pécheurs. » Tu es le Fils de Dieu. Prends une certaine satisfaction. Fais un miracle pour ta satisfaction physique. Il répondit. Il est écrit. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'un des grands mensonges de Satan est que Dieu fait des miracles pour répondre à nos besoins physiques. Il y a des gens qui tournent autour aujourd'hui tout ce qu'ils veulent. Ce sont des miracles. Ils pensent que Dieu est un peu comme un génie cosmique, une sorte de magicien surnaturel qui fait des tours. Ils disent que c'est la preuve de leur grande foi, quand une demande constante pour ce genre de choses ne constitue pas une preuve de foi du tout. C'est une preuve de doute qui cherche une preuve. Il y avait un couple que j'ai rencontré dans l'Iowa, un couple très doux. Ils sont venus me voir dans ma chambre de motel, un jour où ma femme et moi nous attendions. Ils ont frappé à la porte et ils étaient en grande détresse. Et ils sont entrés pour dire « Nous devons vous parler. Nous devons vraiment vous parler. » Et j'ai répondu « Très bien, entrez. » Nous nous sommes assis et la femme a commencé à exprimer le fait qu'ils étaient de nouveaux chrétiens. Mais ils se réunissaient avec des gens qui étaient toujours à la recherche de miracles et de prodiges, vous savez, et ils faisaient des miracles. À côté de Dieu, savez-vous qui est le meilleur faiseur de miracles dans l'univers? Satan. Il en fait tout le temps pour la satisfaction des besoins physiques. Et nous pensons, ou au moins certains chrétiens le pensent, que cela vient de Dieu. Pour continuer, elle s'est assise et m'a parlé du miracle qui se passe dans sa famille. Le plus merveilleux était que sa fille, je crois qu'elle avait 7 ans, recevait des révélations de Dieu, des révélations merveilleuses, nuit après nuit, et elle les avait toutes notées. Oh oui, oui. Pourriez-vous me répéter encore cela une fois? Vous les écrivez toutes, ces révélations de Dieu, jour après jour. Chaque soir, cette petite fille de 7 ans allait se coucher, et au milieu de la nuit, elle était réveillée par une sueur froide. Elle voyait des apparitions étranges dans sa chambre, et racontait ses visions, et nous les écrivions toutes. Et nous croyons que cela vient de Dieu. Nous voulons que vous sachiez cela. Et je suppose qu'il voulait que je les aide à interpréter les visions. Mais je ne suis pas arrivé jusqu'à la question suivante. Ils ont dit ensuite, « Qu'en pensez-vous ? » Eh bien, vous savez, c'était passionnant parce que quelqu'un leur avait dit que la vie chrétienne était ainsi. Vous avez un miracle chaque jour. Cela éloigne le médecin, peu importe d'où cela vient. Vous savez, gardez le diable éloigné, peu importe le livre. Mais pour ce genre de préoccupation de miracle, je leur ai répondu. Permettez-moi que je vous dise quelque chose tout de suite. Pas une seule de ces choses n'a jamais été de Dieu.
Ah !
Ils étaient vraiment choqués. Ils disaient, eh bien, vous savez, nous nous en posions des questions à ce sujet. Beaucoup d'entre elles semblaient si bonnes, mais certaines étaient étranges, et notre fille avait toujours terriblement peur. Elle avait peur, et apparemment elle voulait dormir avec eux. Je leur ai dit, « Rien de tout cela n'est de Dieu. Vous savez pourquoi ? Dieu a déjà donné sa révélation. C'est ici. Écoutez, s'il avait quelque chose à dire, pourquoi le dirait-il à une fille de 7 ans dans l'Iowa ? Eh bien, vous savez, ils étaient allés à une étude biblique quelque part avec des gens qui leur ont dit qu'ils devaient s'attendre à voir tous ces miracles. Vous voyez, un grand mensonge de Satan dit que Dieu n'est présent que si vous voyez des miracles. Et puis vous commencez à chercher ces choses, et Satan se déplace et commence à faire des choses qui captivent votre esprit. C'est un autre des mensonges de Satan. C'est un menteur par excellence. Il y en a d'autres que nous pourrions citer. Il ment sur beaucoup de choses. Une autre chose. Il ment quand il vous dit que vous pouvez vraiment vous abuser de Dieu, exploiter ses promesses. Regardez dans Matthieu 4, verset 5, c'est intéressant. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Vas-y, jette-toi en bas. » Cela avait déjà été tenté, sans succès. « Pourquoi devrais-je faire cela ? Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il dit que Dieu a promis de prendre soin de vous. Mettez sa promesse à l'épreuve. Exploitez les promesses de Dieu. » Dieu a dit qu'il ferait cela. Alors mettez-le dans une situation où il est obligé d'agir. Voilà un autre des mensonges de Satan. faites-le spectaculaire et Dieu prendra le relais. C'est une fausse indication de ce que Dieu voulait dire. Deuxièmement, un autre de ces mensonges est de remplacer Dieu. Si vous voulez obtenir ce que vous voulez autrement, vous n'avez pas besoin de prendre le chemin de Dieu. Dieu va donner au Messie les royaumes du monde, alors qu'il le fasse à ma manière. Prosterne-toi devant moi, dit-il dans les versets 8, 9 et 10, et je vais tout te donner. Tu n'auras pas besoin d'attendre, tu n'auras pas besoin d'aller à la croix, pas besoin de payer tous les prix, tu n'auras pas besoin de souffrir. Je vais tout te donner, fais-le à ma façon. C'est un autre des mensonges de Satan. Et il y en a beaucoup d'autres. Satan est un meurtrier et un menteur. Troisièmement, je vais vous dire quelque chose d'autre sur lui en termes qui le décrivent. C'est un pécheur. Satan est un pécheur. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, et c'est un verset important, il est écrit « Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est un éternel pécheur. » Vous savez, quand nous avons vu la semaine dernière sa sainteté et sa beauté, et cette semaine son péché, vous pouvez voir la gravité de la chute. Comme Jésus a dit, il l'a vu comme un éclair tombant du ciel. La corruption qui a eu lieu était fantastique. Toute personne, poieo, un mot continuellement au présent, péchant habituellement et ek, c'est une source ablative, en considérant le diable comme une source parce que Satan est la base du péché. Et quand Christ est venu dans le monde, il est venu non seulement pour détruire le péché, mais pour détruire Satan. Regardez la fin du verset 8. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Christ est apparu non seulement pour enlever le péché, mais pour détruire Satan. C'est un pécheur. Il tente les autres à pécher. Il incite les autres au mal. Le Christ est venu pour le détruire. Quatrièmement, nous allons couvrir juste un peu plus. C'est l'oppresseur des saints. Satan est l'oppresseur des saints. Comme je vous l'ai lu plus tôt dans 1 Pierre 5, verset 8, il rôde. Et le présent du verbe signifie littéralement « il traque constamment, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il traque, et quand sa proie est à portée, il rugit. Il opprime les saints, il les traque. Il tente de les piéger et de les coincer dans le péché. Cinquièmement, Satan est un pervertisseur. Il est étonnant que Satan ait obtenu une prise de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour les pervertir. Il pervertit tout. Dieu a fait des fruits pour que nous puissions en boire le jus, et Satan introduit l'alcoolisme. Dieu a fait le sexe pour que nous en profitions. Il pervertit cela aussi en quelque chose de sale et d'adultère. Il pervertit tout ce que Dieu a fait de bon. Impossible de ne pas penser à une chose qui est dans mon esprit, même aujourd'hui. On n'y pense pas forcément, mais réfléchissons quand même à ce sujet. C'est dans le domaine de la nourriture, ce qui est très pratique. Mais Satan a réussi à pervertir même quelque chose de bien comme la nourriture. Maintenant, vous ne pouvez pas vous saouler avec la nourriture, mais vous pouvez être un glouton. Satan a réussi à faire cela. Regardez avec moi une minute 1 Timothée chapitre 4 et verset 3. Satan arrive avec une doctrine de démons. Et certaines de ces choses que ces démons enseignent sont, verset 3, l'interdiction de se marier. Mais il poursuit en disant, ils interdisent de se marier et prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont croyants et qui connaissent la vérité. Ce qu'il fait ici est, Satan a effectivement pris l'idée d'un régime pour la pervertir dans certains systèmes de religion qui enseignent que la spiritualité est basée sur leur régime alimentaire, qu'elle est basée sur ce que l'on mange. Je crois que beaucoup de Juifs ont estimé que leur spiritualité dépendait de ce qu'ils mangeaient. Lorsque l'Église a été établie dans le Nouveau Testament, beaucoup de chrétiens juifs pensaient que leur spiritualité était toujours basée sur ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils ne mangeaient pas. Et ce fut le problème que Paul traitait dans 1 Corinthiens chapitre 8, en parlant des viandes offertes aux idoles, et Romains chapitre 14 et 15, où ils discutaient à propos de ce qu'ils avaient mangé. Et Satan aime que les gens pensent que leur spiritualité dépend de ce qu'ils mangent. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le monde qui pensent que la spiritualité dépend du fait qu'ils sont végétariens. Et Satan donc se sert de cette perversion et d'autres extrêmes. Le verset suivant dit « Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Satan a nié cela. Chaque créature de Dieu est bonne et ne doit pas être refusée, mais certaines personnes mangent tout ce qu'elles voient en disant « Regardez la provision de Dieu. Donnez-la-moi, c'est super. Avec de la crème fouettée, s'il vous plaît. » Ils vont dans l'autre sens. Au lieu de l'abstinence comme signe de la spiritualité, ils disent qu'il n'y a rien d'interdit pour moi. Et Satan vous pousse dans ce sens. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la gloutonnerie. 1 Pierre, chapitre 4, verset 3 dit « En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes, les excès de table et de boissons lors d'un banquet, et la gloutonnerie est inhérente à ces deux termes. Dieu est très sérieux au sujet de l'équilibre, d'être tempéré, modéré dans ce domaine. Dans Proverbe 23, verset 1, « Si tu t'assieds à table avec un chef, fais bien attention à ce qui est devant toi. Regardez cela. Et mettez un couteau sous votre gorge si vous êtes un homme avec beaucoup d'appétit. Oh, vous savez quel est le meilleur régime ? Je veux dire que nous rions de quelque chose comme ça, mais c'est un problème très réel dans notre société où la majeure partie de nos travail est de s'asseoir plutôt que de dépenser l'énergie dans un travail physique. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. » Verset 20. « Ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin, de ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent. L'assoupissement fait porter des haillons. Une chose, vous buvez trop, vous mangez trop, vous devenez paresseux, et vous ne travaillez pas, vous gagnez peu d'argent. Alors vous n'avez rien à acheter, et vous vous habillez de haillons. La gloutonnerie est une chose sérieuse. Maintenant, tout cela pour vous montrer combien Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux. La nourriture pour alimenter notre corps. Et nous l'avons perverti en disant que c'est un signe de spiritualité. Ce que vous mangez ou ne mangez pas. D'autres personnes ont perverti la liberté que Dieu leur a donnée par rapport à la nourriture. Et elles sont devenues gloutonnes. Et au lieu de manger pour vivre, ils vivent pour manger. Satan a tout tordu. Tout perverti. Il n'y a rien en dehors des limites de sa perversion dans le royaume humain. C'est un pervertisseur. Enfin, c'est un imitateur. Il n'a jamais eu une pensée originale dans son esprit, hormis le péché. Après cela, il est devenu un imitateur. Il imite. Vous savez qui il imite ? Qui ? Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 13. De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se transforment aussi en ministres de justice. Pas étrange du tout. C'est un imitateur. Et je vous ai dit tout à l'heure, si vous pensez une minute que Satan est un clochard de gouttière, un ivrogne, un criminel, un pervers sexuel, vous avez tort. J'imagine qu'il est dégoûté par ce genre de personnes. Ils ne sont pas une bonne publicité pour lui. Son chef-d'œuvre est un homme religieux, bon, droit, honnête, respecté, qui enseigne une fausse doctrine sous le couvert de la vraie religion. C'est un imitateur. Il apparaît comme un ange de lumière. Il a toujours été un ange de lumière. Il apparaît toujours et encore comme un ange de lumière. C'est un imitateur, c'est un trompeur, un prédicateur qui se déguise en messager de Dieu. Vous savez ce qui est diabolique en ce qui concerne l'Antéchrist à venir ? Ce n'est pas qu'il soit tellement contraire à Christ, c'est qu'il soit tellement semblable à lui. Est-ce que le diable existe ? Oui. Qui est-il ? Il est Lucifer, qui est tombé. Comment est-il ? Toutes ces choses que nous avons vues ce soir. La semaine prochaine, nous allons voir comment il opère avec ses propres enfants et les enfants de Dieu. Prions. Notre Père, nous savons qu'il n'y a qu'un seul moyen de surmonter l'adversaire, ce qui est très clair dans les Écritures. Nous pensons à ces précieuses paroles dans Apocalypse 12 au verset 11 qui disent « Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Père, nous savons que sur la croix l'agneau précieux de Dieu, sans défaut et sans tache, a vaincu Satan. Il l'a rendu impuissant. Et puis il a planté en nous, qui y croyons, le Saint-Esprit qui nous rend puissants. C'est la victoire. Nous te remercions, Père, pour ceux d'entre nous qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, car Satan est un ennemi absolument vaincu. Mais en même temps, notre Seigneur, nous reconnaissons que pour ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et ne l'ont pas reçu comme sauveur, Satan est l'esprit qui travaille au sein de leur vie et dicte leur destin. Père, nous prions ce soir que s'il y a au milieu de nous, et nous croyons qu'il doit y en avoir, dans une foule comme celle-là, S'il y a certains parmi nous qui sont sous la tromperie et la ruse du meurtrier, du menteur, ce Satan pécheur qui pervertit, que toi, par ton esprit, tu peux briser les chaînes et les libérer. Nous prions qu'ils connaissent par la foi en Jésus-Christ la liberté du péché, traduite du royaume des ténèbres dans le monde de ton cher Fils. Fais ce travail, Père, ce soir, pour ta louange et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.